Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi. On est ensemble jusqu'à 15h sur RMC, à la radio RMC Story, canal 23 de la TNT. On est avec Rémi Barré, avec Thierry Moreau, avec Fatima Benomar et avec Fred Hermel, avec vous également au 32-16 pour réagir à la proposition d'Éric Ciotti qui veut supprimer les droits de succession et de donation. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec lui? 14h30, ce sera RMC s'engage pour vous et Amélie Rosic qui va tenter d'aider Hervé. Il a souscrit à une mutuelle pour ses soins dentaires, mais il n'arrive toujours pas à se faire rembourser. Et puis on ouvrira peut-être le coffre RMC, Rémi.
Oui, puisque à partir de maintenant, à quelques jours du début de la Coupe du Monde, eh bien RMC vous offre le meilleur équipement high-tech grâce au coffre RMC. Vous vous inscrivez donc maintenant, tout de suite, en envoyant coffre par SMS au 732-16. Si vous êtes sélectionné, vous repartirez soit avec un iPad, soit avec une enceinte Marshall Woburn, ce qui est déjà très bien.
Ah bah 500 euros.
Exactement. Mais vous pouvez aussi décider de remettre en jeu ce cadeau à l'intérieur donc du coffre des AirPods ou alors la totale Coupe du Monde avec une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox Series S, un four à mini pizza et un mini bar. Alors est-ce que vous oserez ouvrir le coffre RMC? Eh bien en tout cas pour vous inscrire c'est simple, vous envoyez coffre par SMS au 732-16, coffre par SMS au 732-16.
RMC Estelle Midi.
Et on va donc revenir dans Estelle Midi sur la proposition du jour. C'est celle d'Éric Ciotti, le candidat à la présidence des LR, souhaite supprimer les droits de succession et de donation. Il était l'invité de France Info hier. Écoutez.
On est le pays juste avant la Corée qui a les droits de succession les plus élevés. C'est une injustice. Toute la vie, on paye des impôts, impôts sur le revenu, CSG, TVA. Lorsqu'on a constitué un patrimoine, on paye l'impôt foncier, l'impôt sur la fortune. Et puis, pour ceux qui le payent, c'est pas beaucoup, mais il y en a quand même qui sont prélevés. Et lorsqu'on veut transmettre à ses enfants son patrimoine, le fruit du travail de toute une vie, eh bien, il y a cet impôt sur la mort qui est d'une injustice totale.
Alors, Rémi Barré, à combien se montent ces droits de succession actuellement et ces droits sur les donations?
Alors, le taux le plus élevé du barème pour une transmission parent-enfant en droit de succession, c'est de 45%. Et Éric Ciotti a raison, hein, ça fait de la France l'un des pays les plus taxeurs au monde. Mais attention. Ce taux de 45% ne s'applique qu'à partir d'un patrimoine à transmettre d'1 805 677 euros. Par enfant. Bon, ce qui n'est pas le cas le plus courant, on l'imagine. Hein. Loin de là, 80% des successions en France sont en fait inférieures à 100 000 euros par enfant. Donc, en dessous de cette somme, bah, il n'y a aucun frais de succession. Donc, vous m'aurez compris, hein. Oui. 80% des cas, il n'y a pas de frais de succession lorsqu'il y a héritage. On peut prendre un cas très concret. 3 enfants d'un couple héritent d'une maison qui est estimée à 360 000 euros. Divisé par 3, bah, chacun touche 120 000 euros, c'est à partir de 100 000 euros qu'on commence à payer des frais de succession, donc ils n'auront à payer qu'à payer, on paye quand même, 20% sur 20 000 euros chacun. Si la maison est estimée à 300 000 euros, vous m'aurez compris, divisé par 3, ça fait 100 000 chacun, ils ne payent rien. On parle également de la donation, de ce qu'on appelle des donations de son vivant. Mm-hmm. Bon, bah là, il faut savoir que c'est pareil, vous avez le droit sans taxation à donner 100 000 euros par enfant, mais il n'en reste pas moins, et c'est ce que dit Éric Ciotti, qui a quand même ce sentiment de devoir continuer à payer des impôts sur le patrimoine que l'on souhaite transmettre à ses enfants, qui est souvent
et
le
qui
fruit
qui a déjà été imposé.
Exactement, et qui est souvent le fruit du travail de toute une vie. Et Éric Ciotti lui-même, il n'hésite pas lui à parler d'un impôt sur la mort.
Alors, d'accord ou pas d'accord avec Éric Ciotti, faut-il supprimer les droits de succession et les droits sur les donations, Thierry Moreau?
Ça dépend ce qu'on met dedans. Moi, je serais plutôt pour les alourdir pour les ultra-riches. Je m'explique. Quand il s'agit de transmettre le pécule qu'on a amassé toute sa vie à ses enfants, il n'y a pas de problème. Et je dirais même que j'augmenterais le taux de 1,8 million, au-delà duquel on est taxé à 45%. Je ne parle évidemment pas des entreprises où, évidemment, il devrait y avoir là aussi des exemptions. Il y en a déjà, mais elles devraient être plus importantes. Non, je parle simplement des rentiers. Vous savez, il y a en France des gens qui ont hérité, par exemple, de familles de la grande distribution. Il y a une famille qui s'appelle la famille Muliez, où il y a je ne sais combien d'héritiers qui sont localisés en Suisse ou qui sont...
Non, ils sont en Belgique. Ils sont en Belgique. Je les connais tous, je suis de là-bas, ils sont tous en Belgique.
Voilà, et qui n'ont qui ne font pas fructifier le patrimoine, qui ne sont là que pour dilapider l'argent que leurs ancêtres ont amassé. Bah, et ça, ça me choque.
La plupart, ils dirigent quand même des sociétés. Enfin,
donc
ils
moi, je le. Hein, alors non, pas du tout. Alors là, parmi ceux-là, il y en a qui dirigent, oui, mais il y en a une grande partie qui ne touche que l'argent tous les ans, qui tombe comme.
Mais ils sont en Belgique pour pas payer parce que c'est trop élevé en France.
Et ben voilà.
J'en connais plein.
Et ben moi, je les taxerai.
J'ai même une amie qui est héritière d'une de ces familles. Elle habite en Belgique pour les droits de succession.
Et moi, je les
taxerai. C'est totalement idiot les droits de succession parce que ça fait fuir les gens.
Et donc, je les taxerais beaucoup plus au-delà d'un certain seuil très élevé, certes, mais au-delà d'un certain seuil très élevé.
Là, c'est déjà 50%, enfin 45%.
Voilà.
C'est absolument. Quand même quasiment la moitié.
J'augmenterai le seuil, mais je le taxerai plus. Voilà.
Fatima Benomar, est-ce que finalement ce serait une mesure pour les riches, cette mesure d'Éric Ciotti?
Très clairement, hein, de manière parce qu'on dit que la France elle redistribue énormément et en même temps on dirait que les inégalités sont tellement profondes et tenaces que la France est l'un des pays où il y a les plus grandes inégalités de naissance. C'est-à-dire qu'en France, au-delà des biens immobiliers, il y a 10% de la population qui a à la naissance plus de la moitié des patrimoines. Et donc en fait, et il y a même pas de contestation scientifique là aujourd'hui. Ça ne fait plus débat sur le poids que ça a l'héritage des règles en profondeur, en fait, le principe d'égalité en France. Il y a effectivement les 1% des plus riches qui héritent en moyenne 4,2 millions. Et en fait, il y a tellement d'exonérations à partir d'un certain seuil qu'en vérité, les personnes les plus épargnées sont aussi parmi les plus riches parce qu'ils bénéficient d'un certain nombre d'exonérations. Et donc, c'est clairement un système qui va favoriser les plus gros. Il y a beaucoup de... Ben justement, il y a eu un conseil des économistes qui était, eux, mixte, hein, de droite et de gauche, pour donner des préconisations au gouvernement. Et eux, ils disaient, au contraire, en fait, on est dans un tel modèle inégalitaire qu'il faudrait encore plus avoir un système progressif, mais vraiment sans exonération, et de pouvoir aussi financer ainsi une garantie de capital universel pour toutes les personnes majeures. Tu as 18 ans, tu as un capital au moment où tu dois faire les choix de vie les plus fondamentaux.
Mais c'est alors d'accord.
Voilà.
Alors,
et juste un truc, c'est que moi, du coup, je pense que vraiment, parce que ça rencontre effectivement une grande résistance dans l'opinion, et j'ai l'impression que c'est une sorte de naturalisation et de fatalité de classes sociales qui doivent être immuables, comme si c'était quelque chose de sacré qui doit se transmettre
non,
génération
c'est juste
après
que
génération.
Déjà payé des impôts.
Voilà.
En
fait,
moi j'ai une question pour toi.
Pour moi, on ne peut pas continuer à vivre dans une société où les gens admettent que si le mauvais destin t'a fait naître dans la mauvaise classe sociale, eh ben il faut l'admettre.
Alors,
et quand tu es né, voilà, il faut pas se poser la question. Quand on est dans une république, il y a un devoir à appliquer le principe de.
Alors
l'égalité.
Moi j'ai une question pour toi. Mettons, il y a le revenu universel. Grâce à ce revenu universel, il y a un gamin qui est né pas du tout fortuné dans la zone, etc. Et ce gamin réussit à monter sa société et à faire des millions et des millions. Il est pas rentier. Enfin, je veux dire, au départ, il n'est pas favorisé par la vie. Tu lui prends pareil tout l'argent, etc.
Mais évidemment, mais c'est quelque chose.
Mais en fait, aujourd'hui, tu peux ne pas être bien né et réussir dans la vie. J'entends que c'est plus compliqué.
Bah, si on
ça,
peut rien
je suis d'accord avec toi.
Et si on peut rien donner à ses enfants,
non,
mais si on peut rien donner à ses enfants, moi, je dépense tout de mon vivant et puis terminé.
Voilà.
Et de toute façon, il y aura des inégalités quand même, parce que t'auras une grosse voiture, un machin, et t'auras toujours des inégalités.
Alors, on va expliquer l'égalité à la naissance, parce que là, ça va pas ce que tu dis, Fatima. Parce que oui, il y a une inégalité à la naissance.
Ça,
sauf qu'après, il y a un système social qui fait que ces inégalités, elles sont corrigées par la redistribution. Mais ça, c'est clair. Excuse-moi, enfin,
c'est un peu. Si t'es enfant de quelqu'un de très riche.
Mais bien entendu, mais quand t'es enfant de quelqu'un de pauvre, ou de modeste, comme moi, eh ben, t'as les bourses, t'as les allocs, t'as plein de trucs. C'est-à-dire que le système, l'inégalité à la naissance, elle est corrigée par un système ultra redistributif.
En partie, bien entendu.
Parce qu'on n'est pas dans un système communiste. Je termine, s'il vous plaît. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. On connaît tous des tonnes de gens qui viennent de familles normal, voilà, modeste, ouvrier, employé, etc., qui ont dû vendre la maison familiale.
Ça, c'est pas normal.
Pour payer les droits de succession. C'était un déchirement, parce que c'était quelque chose qui était, dans la famille, qui était la construction, même des ouvriers, hein, papa, maman, qui ont travaillé, etc., et ils ne peuvent pas payer le droit de succession.
D'accord,
il y a un problème. Et je termine là-dessus. Franchement, les gens ont déjà payé mais tellement d'impôts, puisqu'on est dans le pays le plus taxé au monde, pour pouvoir acquérir ce patrimoine.
Et pourtant, Et ça, c'est, je pense que c'est vraiment, c'est pas quelque chose que j'invente. L'héritage, c'est ce qui structure le plus les immigrants.
Je voudrais juste te donner un exemple.
Et les aggrave le long de la de
je
la.
Je voudrais juste te donner un exemple. Les droits de mutation au moment du décès de Liliane Bettencourt, ils devaient être de 17 milliards. Il y a zéro impôt pour droits de mutation qui ont été faits parce que
c'est à l'entreprise.
La gestion. Non. Là, je parle de la fortune personnelle. Oui. Parce que les droits de mutation ont été gérés depuis 1992 de façon très habile et optimisée. Mmh. Ils ont payé zéro de droits de succession. C'est pas normal.
Bien sûr, c'est pas normal, mais ça, on est d'accord.
On est d'accord.
Je voudrais qu'on écoute Thierry. Il est agriculteur et il nous appelle de Lille-sur-Tarn, dans le Tarn. Bonjour Thierry.
Oui, bonjour. Bonjour l'équipe.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Thierry, avec ce petit accent qui chante.
Je suis pas contre totalement les droits de succession, mais il faut les réduire de façon très importante. Je vais vous donner mon exemple perso.
D'accord.
Donc je suis viticulteur. Je n'ai pas d'enfants, j'ai que des neveux.
Okay.
Et sur les neveux, le taux, c'est de 55%.
Ah oui, c'est pas en ligne directe, tout à fait.
Voilà, je considère que c'est du vol, parce que j'ai travaillé toute ma vie, j'ai remboursé des emprunts, j'ai payé les impôts locaux, j'ai payé les impôts sur le revenu, et à la sortie, on me dit, on va t'en piquer la moitié.
Plus de la moitié.
Oui, oui, 55%. Plus les frais d'acte, bien sûr.
Tout à fait.
Et Thierry, vous préconisez quoi? Donc de les supprimer, ces droits de succession?
Non, j'ai pas dit qu'il fallait les supprimer totalement, mais il fallait les réduire de façon très importante. Imaginez que j'ai un neveu qui veuille reprendre mon exploitation, il en rachète la moitié.
Bah oui, bien sûr.
Non, mais évidemment, mais c'est la situation qui pénalise, c'est le cas par cas, c'est ça en fait le problème.
Mais bien sûr.
Voilà, c'est ça.
J'avais oublié, parce que quand j'ai vu Thierry agriculteur, je me suis dit, c'est vrai, j'ai oublié cet exemple-là. Pour les agriculteurs, c'est terrible. Et pour beaucoup de petits artisans, c'est un problème aussi.
Exactement.
Oui, mais surtout s'il n'y a pas d'enfant, si vous transmettez à des neveux.
Exactement.
55% c'est du rôle.
Thierry, c'est mon cas, je n'ai pas d'enfant et j'ai un neveu.
C'est à contre-courant des préconisations qui sont faites, parce qu'il faut vraiment se rendre compte à quel point l'héritage prend le plus en plus de place.
Mais écoute ce que
en
dit
fait,
monsieur.
Dans les inégalités, par exemple, aujourd'hui, en France, la part de l'héritage que tu as, c'est 60%, alors que c'était 35% dans les années 70.
Tu dis ça, mais par exemple, aujourd'hui, quand tu hérites, a priori, aujourd'hui, tu as à peu près 50 ans. C'est simple. Nos parents, ils vont vivre jusqu'à aller 80 ans. Ils nous ont fait à peu près entre 25 et 30 ans. Bref, donc quand tu hérites, t'as 55 ans. Je suis désolée, mais à 55 ans, ta carrière elle est faite.
C'est bien ce que
ta
je dis.
Ta carrière elle est faite.
C'est pour ça qu'ils préconisent au contraire de trouver un système justement de taxes et de redistribution qui te donne ce capital en avance avant la mort de tes parents.
Et alors tu sais quoi? Et dans ces cas-là, il faut supprimer les droits sur les donations, parce que les donations, ça c'était égalitaire et ça c'est formidable, parce que ça permet aux parents de donner à leurs enfants et que les enfants puissent consommer, puissent avoir un toit quand il y a un petit peu évidemment.
Mais là, on parle vraiment de personnes qui ont les moyens. Parce que
mais non, pas forcément. Ça peut être un petit capital pour recommencer à acquérir.
De choses qui sont taxées à partir de 100 000 euros.
Mais non. Fatima, je vais donner un exemple. Pour avoir un apport, par exemple, pour avoir un crédit, ça peut être quelques milliers d'euros. Et ce quelques milliers d'euros en donation, s'il est totalement exonéré, et c'est le cas actuellement, c'est formidable.
C'est ce qu'on dit.
Non, mais ça ne concerne pas que des gens qui ont 100 000 euros à donner.
Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est taxé à partir de 100 000 euros. Donc, on ne parle pas de taxation de donations inférieures. Donc, je ne vois pas en quoi tu me contredis.
Mais il y a plein de gens en France qui ont les moyens, sans être riches, de donner 100 000 euros à leurs enfants. Sans être grand riche.
Eh bien, à un moment, comme on décide d'un seuil, moi, je trouve que le seuil existant aujourd'hui est absolument raisonnable. Je pense que d'organiser la redistribution à partir de 100 000 euros. Et vraiment, les conseils scientifiques qui ont travaillé là-dessus, ils trouvent qu'au contraire, la France est très, très, très en retard dans cette redistribution.
Mais il y a la théorie, et après, il y a la pratique, comme explique Thierry.
Excuse-moi, ce sont des économistes. Ils sont complètement dans la théorie.
Des économistes totalement orientés politiquement.
Ce conseil a pris exprès des économistes de droite et de gauche pour donner des recommandations.
Et après, tu as les exemples au quotidien qu'on connaît tous et qui sont.
C'est le problème du cas par cas.
Le problème, c'est que le cas par cas, c'est la majorité des Français.
On est avec Nathalie Cosigou-Suas, qui est notaire à Paris, qu'on a eu plusieurs fois sur le plateau de l'émission, c'est un bonheur, et co-autrice de L'héritage pour les nuls aux éditions First. Bonjour maître.
Bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver.
Ça fait plaisir maître. Maître, est-ce qu'il a raison Éric Ciotti de vouloir abolir les droits de succession et sur les donations?
Mais ce que je vous ai tous entendu, et effectivement, mais tout le monde a un petit peu raison, mais c'est quand même un peu les serpents de mer. Vous savez, cette histoire de revenu universel, c'est pas une nouveauté, hein. Depuis le 18e siècle, c'était l'œuvre d'économistes déjà qui en parlait. Donc, ça, c'est vraiment on a l'impression que c'est des serpents de mer, mais il reste quand même, chers amis, que c'est la France qui est quand même l'un des pays au monde qui est le plus taxé sur les droits de succession avec la Corée du Sud et le Japon. Donc, faut être très vigilant aussi, parce que comme disait monsieur Sylvestre, le monde est mondial. Donc on risque d'avoir, pour des gens qui peuvent s'exiler, effectivement, avoir des délocalisations. Donc ça, il faut être très vigilant aussi. Moi, je m'interroge aussi parce que quand Fatima dit effectivement que maintenant, c'est la moitié des patrimoines des gens qui revient de l'héritage, mais elle a raison, Fatima. Dans les années 70, c'était un tiers. Mais plutôt que de s'interroger sur le poids de l'héritage, il faut aussi peut-être s'interroger, ça c'est plus économique, mais pourquoi justement la valeur travail à ce point-là baissé ? Parce que c'est pas l'héritage qui a augmenté dans le patrimoine, c'est corrélativement plus la valeur travail.
Et parce qu'il est trop taxé le travail.
Ben voilà, oui. C'est plus d'accord. Ça, je pense, parce que on est vraiment l'un des pays les plus taxés au monde, donc il faut quand même être vigilant, même si Thierry, par exemple, le cas de Thierry, les rendements topiques, on a ça partout dans nos études, les notaires de France. Effectivement, s'il y a quelque chose à faire, c'est plus la transmission entre neveux et oncles et tantes, effectivement, parce que Thierry a raison, c'est du taxation à 55%.
Oui, et évidemment, 55%, ça fait beaucoup, quoi.
C'est extrêmement important. Mais effectivement, il y a beaucoup de patrimoine, il faut quand même le dire, hein, qui ne paye pas de droits de succession. Parce que, effectivement, on a 100 000 euros par enfant et par parent d'abattement dans la succession. Donc, si vous avez, par exemple, un couple qui a un patrimoine de 400 000 euros, et c'est pas le cas de tout le monde, hein, non, tous les Français ne sont pas aussi fortunés, eh bien, il y aura pas de droits de succession dès lors qu'ils auront eu deux enfants. Donc, c'est pas les taxations en ligne directe qui sont extrêmement taxées, c'est plus les successions, bah, celles de Thierry. Voyez, entre oncles et neveux, effectivement. Sachant que le conjoint, l'époux et le partenaire taxé, eh ben, ils sont complètement exonérés de droits de succession. Donc, il faut quand même voir où on est, en fait. Il y a des droits de succession, certes, mais en ligne directe, c'est pas si important que cela.
Alors restez avec nous, hein, maître, parce qu'on vous risquez d'avoir des questions de la part de nos auditeurs. Il y a pas mal de messages, en tout cas, qui sont tombés, Rémi.
De très nombreux messages de réaction. C'est vrai que la plupart vont dans ce sens. C'est-à-dire, moi, j'ai travaillé toute ma vie pour accumuler de l'argent, enfin, en tout cas, pouvoir transmettre à mes enfants et me faire taxer au moment où je décède, voir mes enfants se faire taxer, en tout cas, c'est très gênant. Et c'est vrai que s'il y a ce sentiment quand même d'être, d'avoir accumulé. Quand, de toute façon, il n'y a pas de gêne à être riche, mais d'avoir accumulé une certaine richesse, parfois modeste, hein, c'est pas une maison, et de voir ses enfants à nouveau taxés, ça fait mal.
Et surtout une maison, par exemple, et je parle sous le contrôle de maître, une maison qui à un moment coûtait pas forcément très cher, mais avec l'explosion des prix de l'immobilier, ça coûte, elle est taxée telle, elle est, comment on dit en français, elle est valorisée, estimée à un prix, que les enfants ne peuvent pas, ou les héritiers ne peuvent pas payer.
Exactement.
Mais c'est exact.
J'ai un témoignage. Un témoignage très concret, voilà, parce que je le cherchais tout à l'heure d'Amérique, qui nous dit: j'ai perdu mes deux parents à 9 mois d'intervalle. Ils se sont saignés toute leur vie, même à ne pas en profiter. C'est ce qu'il écrit. Je trouve dégueulasse d'avoir été taxé sur le bien. J'ai hérité, il est fils unique, de la maison et d'économie, 200 000 euros au total. Et mes parents ont été taxés toute leur vie. Moi, je n'ai jamais eu d'aide et j'ai dû payer une taxe sur cette maison et ses économies.
Alors, on est avec Emmanuel qui nous appelle de Nantes et qui est banquier. Tiens, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Bonjour.
Emmanuel, merci d'être avec nous. Vous êtes d'accord, vous, avec Éric Ciotti ?
Alors non, moi je suis en totale opposition avec Éric Ciotti.
D'accord.
J'entendais votre débat qui est très intéressant. Et en fait, vous parlez dans le débat surtout de la personne qui décède. Moi, je vais me positionner en tant qu'enfant ou même en tant que neveu. En tant qu'enfant, mes parents ont travaillé effectivement toute leur vie, et c'est le cas, pour avoir un patrimoine immobilier. Quand ils vont décéder, je vais payer personnellement des droits de succession. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, dans ma vie, pour bénéficier d'un patrimoine très important ? Et un tout, si ce n'est être bien né. Quelque part, je dois hériter d'une somme de 500 000 euros, et que sur ces 500 000 euros, je suis taxé de même 100 000 euros. Eh bien, il me restera 400, et ces 400 000 euros, beaucoup d'enfants ne l'auront pas, cet argent-là, pour débuter dans la vie. En plus, j'ai de la chance, comme ils avaient l'argent, j'ai pu avoir des bonnes études, et globalement, j'ai pu réussir à avoir un bon métier, plutôt. Et aujourd'hui, je pense que d'enlever les droits de succession va accroître les inégalités, puisque les plus riches vont pouvoir transmettre à leurs enfants qui auront déjà des bonnes positions sociales ou auront plus de chances d'accéder à des bonnes positions sociales pour accroître encore plus ce
peuple. Mais encore une fois, la position sociale, vu que vous allez toucher votre héritage vers 55 ans, vous l'avez déjà, votre position sociale, vous n'allez pas changer de position à 55 ans.
Juste ce qu'il dit, c'est que dès le départ, même sans succession et tout, tu as rien que le fait d'être dans un environnement plus aisé, tu as déjà un démarrage, même sans avoir encore rien touché.
Culturellement, bien entendu.
Culturel et financier. qui va te favoriser dès le départ. Donc c'est une double inégalité, enfin c'est une double injustice.
Oui, sauf que encore une fois, j'ai à tes parents, c'est le choix de tes parents déjà, c'est pas toi en tant qu'enfant de choisir si tu vas être, si tu vas hériter ou pas, mais c'est le choix de tes parents, et tes parents, ils ont déjà payé des impôts là-dessus.
Et c'est ce qui prend
en fait ça,
et c'est ce qui fossilise en fait des dynasties, on va dire, de classes ou des personnes sur 10, 20 générations qui ont toujours été dans des classes.
Mais c'est pas une question, et c'est pas une question de
la notaire disait la France est l'un des pays les distributifs, elle n'a pas commenté le fait que c'était aussi l'un des pays les plus inégalitaires et que c'est structuré par l'héritage.
Oui, mais sauf que encore une fois, l'héritage, tu donnes pas comme ça, c'est de l'argent sur lequel tu as déjà été imposé. Mais tu es imposé sur de l'argent qu'on t'a déjà enlevé. C'est-à-dire que t'as 100 au départ, on t'enlève 30, et derrière, il te reste 70, et sur ces 70, on va encore t'enlever.
Sauf que vous savez très bien que les ultra riches, ils créent des fondations, ils font de
l'opinion. Mais c'est pour ça.
Mais arrête de parler des ultra riches.
On parle des Français.
Les chez 20 personnes en France, arrête avec ça.
C'est bien plus que 20 personnes d'abord.
Mais si c'est 1000, on s'en fout, il y a 60 000.
Mais ceux-là, faut les taxer plus.
Mais ceux-là peut-être.
Mais on est d'accord. En Belgique, mon ami. On est d'accord. Parce que les ultra riches, ils ont les moyens de s'expatrier. Parce que la majorité de Français n'ont pas les moyens de s'expatrier.
Les États-Unis, même quand leurs ressortissants vont dans un autre pays, ils peuvent les taxer même à distance. Donc c'est aussi des prises de position politique à prendre.
Oui, après le modèle américain, merci.
Alors on est avec Lilian qui nous appelle de Lyon. Bonjour Lilian.
Bonjour à tous, mademoiselle Denis, mes salutations.
Ça va Lilian?
Oui, très bien.
Bah écoutez, super.
Alors par Lilian. Par rapport à Éric Ciotti, il a dit un point, il voulait supprimer ses taxes à hauteur de 5 millions. Toutes les personnes qui étaient au-dessus de 5 millions paierait quand même les frais de succession.
Oui, ça en fait pas beaucoup déjà de personnes.
Non, mais ça donne déjà une limite. On peut discuter après sur la limite. Moi, je voulais savoir, je ne sais pas si mademoiselle Fatima a des enfants.
Non,
pas d'enfants. Fatima, moi, je me lève chaque matin pour que mes enfants aient une meilleure vie que moi.
Ouais.
Donc, je travaille. J'ai acheté mon premier appartement à 25 ans. Je gagnais 1500 euros, enfin, à hauteur de 1500 euros par mois. J'avais zéro argent en poche. J'ai acheté mon premier appartement. Pourquoi? Pas pour mes beaux yeux, pas pour ma compagne, non, pour mes enfants.
Mais je respecte votre vision. Et moi, en grandissant, j'ai toujours vu, au-delà de mon foyer, les autres, les personnes qui étaient beaucoup plus défavorisées que moi, sachant qu'en plus, j'ai grandi au Maroc. Donc, les disparités de classe sociale sautent aux yeux de manière encore plus sanglante. Et moi, ma vision, c'est que déjà, comme on dit chez nous, je remercie le ciel d'être né avec quelque chose qui m'a permis aujourd'hui d'être toujours en situation de survie, et j'ai toujours vécu comme une injustice de regarder ceux qui étaient moins bien lotis que moi, et je pense que cette solidarité et cette empathie que vous exprimez, pour moi c'est important de prendre en compte tous les privilèges avec lesquels je suis née, d'en rendre en grâce au ciel ou au hasard, mais de savoir que je ne les dois qu'au hasard, et de penser à toutes celles et ceux que j'ai vus et qui ont
été monsieur est artisan plaquiste, c'est pas du hasard, c'est pas le hasard, c'est en se levant tous les jours à 5h du mat.
C'est ton éducation, c'est ton travail, enfin c'est plein de choses, c'est jamais le hasard.
Tu as un cumul de privilèges qui saute d'une génération après génération dans la même famille.
Allez Lilian, on va laisser Lilian terminer. Allez-y Lilian.
Un dernier point, selon l'idéologie de Fatima, nous devrions...
Non mais parlez de vous Lilian là, parlez-moi de vous.
Eh ben parlez de moi. Donc je bosse pour mes enfants et j'achète un bien immobilier, je prends un crédit sur 25 ans, je rembourse mon crédit tous les mois.
Et ben moi je bosse pour le reste de la société.
Mais il paye des impôts, chaque année. Tous les mois, chaque année, il paye des impôts.
Taisez-vous.
Taisez-vous.
Et là on parle des impôts sur la société.
Une fois que je serai mort, on va encore me prélever de l'argent sur le dos de mes enfants.
Pourquoi vous ne faites pas de donation, Lilian?
Excusez-moi?
Pourquoi vous ne faites pas de donation, Lilian?
Je fais de la donation, mais vous avez
droit à
100 000 euros tous les 15 ans.
Là, je sais.
Tous les 15 ans. Donc, comme disait Fred, vous achetez un bien immobilier en plein centre-ville. Évidemment, aujourd'hui, c'est intouchable. Mais il y a 20 ans, quand j'ai commencé, ça valait rien. Aujourd'hui, ça vaut pas 15. Donc, si je vends, c'est énorme. C'est trop.
D'accord.
Il ne faut pas vouloir naître pauvre pour mourir pauvre. Le rêve de chacun, c'est de s'évoluer dans la vie.
Exactement. Et c'est la logique de ce pays merveilleux qui s'appelle la France.
Tais-toi, Fred.
Mais oui, mais c'est vrai, quoi.
Tais-toi.
Pour que notre population française s'élève dans la vie. Et pour s'élever dans la vie, faire des belles études, il faut avoir de l'argent. Et pourquoi
mais c'est pas l'héritage qui vous permet de vous élever dans la vie, Lilian. On peut pas dire ça. Parce
boulot.
Que
c'est le travail. C'est, voilà, oui, c'est, mais sauf que Lilian, quand il va partir, quand il va vieillir, il va se dire au moins je vais laisser quelque chose à mes enfants. Je peux partir plus tranquille.
Mais il peut déjà laisser des donations.
Estelle, on parle de cas. Si vous vivez jusqu'à votre retraite, si du jour au lendemain vous avez un accident de la vie, les enfants.
Vous pouvez leur laisser jusqu'à 100 000 euros sans être taxé.
Oui, mais Lilian, vous avez trois enfants.
Vous pouvez... Sur l'argent des parents.
Non, mais je suis d'accord. Mais Lilian, là aujourd'hui, vous avez trois enfants. Vous pouvez leur donner 100 000 euros tous les 15 ans. Ce qui veut dire que, là, je sais pas quel âge vous avez, mais déjà jusqu'à leurs 30 ans, vous pouvez leur verser à 200 000 euros chacun sans.
Ça fait 300 000 euros. Mais moi, je les ai pas en cash, en donation. Mais vous pouvez créer une SCI, donner de la part de SCI. Je suis tout à fait d'accord.
Oui, parce que c'est son appartement. Ben voilà.
Pourquoi
mais ce que dit Lilian, c'est ça. Mais pour bien expliquer aux gens, pardonne-moi Estelle, c'est que il a pas le cash. Il est pas riche, monsieur. Oh. C'est son investissement dans une maison qui fait que quand il va partir, elle vaudra beaucoup d'argent.
Mais je suis d'accord avec toi. Mais
et après, encore une fois, son argent, il l'a pas volé.
Mais oui.
Et il l'a pas hérité. Et il l'a pas volé.
Il peut aussi faire le choix de vendre. Pas de vol.
L'impôt, ça n'a jamais été une question de vol.
Non, mais il ne l'a. Mais il paie ses impôts. Il
n'a
pas hérité. Il n'a pas hérité de l'argent. Il nous l'a expliqué, il n'a pas hérité de l'argent qu'il a aujourd'hui, il paie des impôts chaque année, tous les mois, et il veut simplement donner le fruit de son travail à ses enfants, c'est tout.
Après, il peut aussi, évidemment, c'est pas la solution idéale, mais vendre et donner et faire des donations à ses à
et il va habiter où lui où est-ce qu'il va habiter
et tu sais limité. En plus et tu sais en plus que il y a des situations où, allez une fois tous les 5-6 ans t'as toujours un président de la République qui dit oh là là oui. C'est un peu on est un peu dans la mouise là au niveau de la consommation donc qui ouvre des donations supérieures donc voilà ça peut aussi arriver. En tout cas merci beaucoup Lilian, merci à tous les auditeurs de nous avoir appelés sur ce sujet et merci à maître Nathalie Cousigou-Suas d'avoir été notre invitée sur ce débat. On vous a posé la question, on voit en tout cas que ça déchaîne les passions. Faut-il supprimer les droits de succession, Rémi ?
Oui, et c'est un oui massif à 79% de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux.
Ah oui, tout de même. Dans un instant, Amélie Rosic, RMC s'engage pour vous et on va tenter d'aider Hervé. Il a souscrit à une mutuelle pour ses soins dentaires, mais il n'arrive pas du tout à se faire rembourser. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
14h33 sur RMC, RMC Story, et c'est le moment d'accueillir Amélie Rosic. RMC s'engage pour vous.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Et aujourd'hui, Amélie, vous avez été contactée sur l'adresse rmcpourvous@rmc.fr par Hervé. Hervé qui est bien embêté avec ses frais de santé.
Oui, des soins dentaires précisément. Vous savez, c'est souvent les plus chers avec un reste à charge globalement très important. 1300 euros en l'occurrence pour les deux couronnes dentaires que devait se faire poser Hervé. Pour être remboursé à 100%, il se tourne vers une surmutuelle. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je l'ai découvert. Pour faire simple, c'est une deuxième complémentaire de santé qui vient rembourser ce que la première ne prend pas en charge. Ça existe, vous pouvez faire ce choix-là. Hervé signe donc chez Préconis, une formule à 80 euros par mois tout de même, c'est cher. Une fois le contrat signé, il commence donc à faire ses soins, donc les implants, mais au moment d'envoyer les factures et de se faire rembourser, c'est la douche froide.
Ils me disent qu'en vigueur de l'article 1964 du Code civil, avant de prendre une surmutuelle, je ne dois pas savoir que j'ai des soins à faire. Eh bien, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas me rembourser. Alors le comble, pourquoi c'est le comble? C'est parce que la commerciale savait très bien que j'ai adhéré à cette mutuelle, justement, je lui ai dit que j'avais des devis à faire, enfin, que j'avais fait déjà des devis. Et j'ai même un mail de la commerciale qui fait bien la simulation de mes deux implants de mes deux dents, deux couronnes. Voilà, c'est de l'arnaque, tout simplement. Ils font tout pour pas rembourser.
Alors, en gros, je vais quand même résumer. Vous avez bien entendu. Oui, Hervé, il adhère à cette mutuelle parce qu'il a des implants à faire.
Oui.
Et on lui dit qu'on ne peut pas le rembourser précisément parce qu'il avait des implants à faire au moment d'adhérer. C'est assez kafkaïen, quand même, l'histoire.
Mais alors, ça veut dire, Amélie, que la mutuelle aurait donc vendu à Hervé une offre en sachant qu'elle ne pourrait pas le rembourser.
Alors, c'est presque ça.
C'est une arnaque,
c'est
en fait.
Un peu plus compliqué que ça. Ce n'est pas la mutuelle qui a vendu le contrat à Hervé, mais un courtier en assurance. Non. Je ne sais pas si vous savez, mais souvent, dans ces secteurs-là, il y a plein d'intermédiaires. Mmh. Bon, bah là, c'est un intermédiaire. Et c'est justement sur cet intermédiaire que le patron de la mutuelle, Loïc Biver, que nous avons eu au téléphone, rejette la faute. Écoutez.
On a effectivement des réclamations sur ce type de refus que la mutuelle peut émettre. Ben, c'est un sujet de contentieux, je dirais, entre le client et le courtier. C'est-à-dire que là, la réclamation, elle doit se faire vis-à-vis du courtier. C'est lui qui a mal orienté son client. Et le courtier dont vous me parlez n'a pas aujourd'hui un taux de réclamation qui justifierait qu'on rompe la relation.
Le courtier, il s'appelle Richard Santé et nous avons fini par avoir son directeur au téléphone hier soir après de nombreuses reprises où nous avons tenté de le contacter. Enfin bref, lui, il était très en colère quand on l'a eu au téléphone. Il nous assure avoir parfaitement conseillé son client et surtout, selon lui, le contrat doit être honoré. La mutuelle doit donc rembourser Hervé. Son entreprise, Richard Santé, a aussi de nombreux avis négatifs sur Google. On l'a quand même du coup interrogé là-dessus et il nous dit justement qu'en fait, tous les avis négatifs sur Google concernent des contrats qu'il a vendus chez Préconise, en un mot, qu'il n'est pas responsable.
Mais ça tombe mal, quoi. Amélie, en fait, donc, tout le monde se rejette la faute. Est-ce que vous avez quand même pu obtenir quelque chose pour Hervé?
Alors, face à notre insistance, quand même, le patron de la mutuelle a finalement accepté au téléphone de réétudier son dossier, mais il a été assez clair avec nous sur le fait qu'il ne faisait aucune promesse. Le courtier, lui, hier soir, nous a assuré qu'il était du côté de son client et donc de notre auditeur, d'Hervé. Il s'engage, lui aussi, à étudier son dossier et surtout à intervenir en sa faveur auprès de la mutuelle. Ces deux patrons, donc, ils se connaissent très bien. Hein, ils s'appellent au téléphone. On ne peut pas laisser cotiser un client pendant plus d'un an pour rien. C'est ce que nous a assuré le directeur, donc du courtier en assurance. Bah, nous, on verra ce qu'il en est. Et surtout, on veillera à ce que, effectivement, la mutuelle prenne en charge ou en tout cas s'explique. Parce que pour l'instant, vous avez bien compris, tout le monde se renvoie la balle. Et Hervé, ça lui a quand même coûté, du coup, si vous avez bien compris, les 1300 euros de reste à charge qui n'ont pas été pris en charge et 80 euros par mois pendant plus d'un an, parce que quand on adhère, donc, on ne peut résilier qu'au bout d'un an, donc plus de 1000 euros.
Donc ça fait 2300 euros.
C'est ça.
Vous le sentez bien ce dossier ou pas, Mélie?
Honnêtement, j'aurais du mal à vous dire. On est sur un 50-50. On a quand même des gens au téléphone qui sont d'accord pour nous répondre, donc c'est déjà un premier pas, parce que c'est pas souvent le cas.
Ça leur coûte rien de répondre.
Voilà, c'est en cours. Je pense qu'ils nous écoutent. Donc voilà, on continuera de les appeler.
On rendra l'argent à Hervé. On parle de quoi demain?
Et demain, on parle. On a dû décaler pour les raisons que vous connaissez. C'était un dossier très compliqué. Et donc, on parle de cette famille qui est partie en vacances en Turquie, qui s'est retrouvée dans une cellule de rétention parce qu'on les soupçonne d'être des terroristes alors que pas du tout.
Oui, c'était évidemment embêtant. On en parle demain. Merci Amélie Rosic, tous les jours, 14h30, dans Estelle Midi. Dans un instant, on va ouvrir le coffre RMC avec peut-être la totale Coupe du Monde pour l'Euro gagnant. Et puis, il y aura les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Mais tout de suite, on va peut-être ouvrir le coffre RMC, Rémi.
Exactement. Tu as avec toi, Estelle, une enveloppe. Dans cette enveloppe, alors ça ne paraît pas, mais elle est grosse, il y a soit un iPad, soit une enceinte Marshall Woburn. Voilà, l'un d'entre vous va être avec nous à l'instant. Il a envoyé coffre par SMS au 7216 et ou l'une, bien sûr, et il va gagner donc soit cet iPad, soit cette enceinte Marshall Woburn. Et comme à chaque fois, tu vas lui poser la question, est-ce que vous êtes prêt à renoncer à ce cadeau pour ouvrir le coffre RMC? Tentez une nouvelle fois votre chance. Et là, à l'intérieur, il y a soit des AirPods, soit la totale Coupe du Monde avec une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox Series S, un four à mini pizza et un mini bar.
Moi, je veux récupérer le four à mini pizza si quelqu'un gagne la totale Coupe du Monde.
Ça s'appelle
en
colocation. On joue aujourd'hui avec Cindy qui vous appelle de Lyon. Bonjour Cindy.
Bonjour.
Et on est ravis d'être avec vous. Cindy, vous faites quoi dans la vie?
Moi aussi, bonjour à
vous. Tu m'étonnes. Alors, Cindy, devant moi, j'ai une enveloppe. Et dans cette enveloppe, il y a donc soit un iPad,
c'est ça.
Soit une enceinte.
Marshall.
Cindy, vous préféreriez quoi?
Oh, peu importe.
Peu importe. Bon, écoutez, comme ça au moins, je vais faire une heureuse. Ouais. Ça fait toujours plaisir. J'ouvre cette enveloppe, Cindy. Et dans cette enveloppe, il y a forcément un très beau cadeau. Et ce très beau cadeau, Cindy, c'est un iPad.
Ah ouais.
C'est le cri du cœur.
Et évidemment, l'iPad, ça fait réfléchir. Cindy, vous êtes joueuse?
Oui, je suis joueuse quand même.
Voilà. Alors, est-ce que vous allez ouvrir le coffre, Cindy? Dans ce coffre, il y a soit des AirPods, soit la totale Coupe du Monde. On fait quoi, Cindy?
On ouvre le coffre.
Sans regret?
Non, sans regret.
Eh bien, écoutez, Cindy, on va faire le code. 1205. Alors, je crois qu'il est mal fait.
Elle a bloqué le code.
Je suis en galère. Attends, je le refais.
Vas-y.
Je la soupçonne quand même. C'est pour se barrer avec le.
Mais non,
avec le four à pizza.
Le four à pizza.
C'est l'émotion. J'ouvre le coffre, voilà. Cindy. Dans ce coffre, il y a une boîte marron. J'ouvre cette boîte marron, Cindy. Et dans cette boîte marron, il y a. La totale Coupe du Monde.
Ouais,
bravo.
Bravo.
Ah,
elle
a gardé le four à pizza ou pas?
Oui, elle a gagné. Je rappelle ce qu'elle a gagné. Elle a gagné une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox Series S, un four, le fameux four à mini pizza et un mini bar.
Qui va être soumis à droit de succession, bien évidemment, parce que c'est un héritage qui vous tombe du ciel et que vous n'avez aucun mérite à le recevoir.
On est bien d'accord.
Bon, ça nous fait plaisir. En plus, le coffre avait déjà été gagné chez Apolline. Ouais, je me suis dit, est-ce qu'on va le faire gagner deux fois chez RMC? Et ben,
bravo,
oui. Bravo à vous,
merci
Cindy.
Beaucoup.
Et alors là, c'est Noël avant l'heure. Hein. Franchement.
C'est vraiment Noël, oui.
Ouais, bah vous avez bien fait de jouer avec nous sur RMC. Et puis, si vous nous regardez, si vous nous écoutez, vous pouvez encore jouer.
Mais oui, parce que tu l'as dit une fois, deux fois aujourd'hui. Trois fois, peut-être. En tout cas, chez Vincent Moscato, on continue. Et vous continuez à jouer au jeu du coffre. Vous vous inscrivez tout de suite en envoyant coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16.
Et on attend.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et on attend les immanquables.
On attend les immanquables et peut-être l'invitation de Sylvie pour aller manger des pizzas.
Mais bien sûr.
Les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et on va démarrer, Rémi, avec le dédommagement du jour.
L'État a proposé environ 200 000 euros d'indemnisation aux membres de la famille d'Ivan Colonna. C'est à la suite du meurtre du militant corse en prison. Cette proposition entend mettre un terme aux poursuites engagées contre l'administration pénitentiaire. Selon l'avocat de la famille d'Ivan Colonna, Patrice Spinozzi, en l'état actuel, seule une partie de la famille a pour moment accepté. Les choses ne sont pas encore clairement déterminées.
Vous comprenez justement qu'il puisse y avoir un petit peu bisbille là-dessus, Thierry Moreau, voilà.
Ah ben je comprends, parce que, enfin, excusez-moi, la justice française, on confie un prisonnier, quel que soit l'acte le plus monstrueux qu'il ait commis, pour une peine de prison, donc une privation de liberté, mais où on est censé lui préserver sa vie quand même.
Bien sûr.
Et il se fait assassiner dans des conditions absolument déplorables. La personne qui était avec lui ne devait pas être là. Enfin, il y a eu un dysfonctionnement absolu. Donc l'État est responsable. Je pense que s'il propose aujourd'hui 200 000 euros, c'est qu'il sente que la condamnation, au bout du compte, va être beaucoup plus importante que ça. Donc non.
Il y a une partie de la famille qui a accepté, hein, quand même.
Il n'y a seulement qu'une partie de la famille qui a accepté. Donc sans doute, il y aura procès et condamnation de l'État. Quand on confie quelqu'un à l'État doit préserver sa vie. Enfin,
et il doit y avoir deux formes de réparation. Donc il y a cette réparation-là et puis tout simplement la vérité et la justice. C'est-à-dire que s'il y a un procès, il est aussi là pour éclairer en fait les conditions de cet assassinat et le fait que ça ne doit plus se reproduire.
Elle vous paraît juste cette somme à vous, Frédéric Hermel?
Je ne sais
pas si c'est le terme.
Rien ne remplace une vie humaine.
Oui, évidemment.
Mais je suis tout à fait sur la ligne de Thierry. Il y a eu une erreur de l'État, un islamiste a tué Ivan Colonna. Oui, il faut qu'il y ait réparation, mais l'argent ne réparera jamais rien. Mais après, il faut que l'État fasse un geste. Il est obligé de le faire. Enfin, la question se pose même pas en fait. Non. Voilà.
Les fermetures du jour.
La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, et le rectorat confirment la fermeture partielle ou totale de 7 lycées parisiens à Paris dès la rentrée 2023 et de 2 supplémentaires en 2024. Selon Valérie Pécresse, la baisse historique des effectifs des lycées de Paris, avec environ 8000 places vacantes aujourd'hui et une perspective de 12000 places vacantes d'ici à 2030, justifie un regroupement décidé. Ces lycées, les places vacantes vont être distribuées vers la banlieue, où là, en revanche, il y a augmentation du nombre des effectifs dans les lycées.
C'est logique ou c'est choquant, Fatima?
Bah, c'est choquant. En tout cas, hier, j'étais à la Bourse du Travail avec pas mal de profs qui disaient qu'il y avait vraiment un problème, en fait, de budget alloué à l'éducation. Et clairement, en tout cas, ce qu'ils semblaient protester, c'était qu'on était dans une vision, on va dire, austéritaire qui promouvait finalement le fait de ramener plusieurs élèves, de la restructuration en fait des lycées.
C'est une question d'austérité, c'est que les élèves sont logiques.
Il y a 11 000 personnes qui fuient Paris chaque année. Donc, en fait,
c'est le résultat de la politique d'Anne Hidalgo.
Bah oui, et donc avec ces lycées qu'on va fermer à Paris, on va pouvoir augmenter les capacités en banlieue, où vont être plus les élèves. Ça me paraît d'une logique implacable.
Aujourd'hui, une famille ne peut plus vivre
à Paris, c'est pas possible.
À Paris, parce que ça coûte trop cher, parce que les transports
pour une famille, c'est compliqué.
Parce que tu peux plus avoir de voiture,
etc. Donc,
ça serait tellement mieux de
la gentrification aujourd'hui de Paris amène effectivement cette baisse d'effectifs des élèves et ça va vers la banlieue et c'est très bien.
Sache que la gentrification va continuer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui maintenant il y a une gentrification des premières villes entourant Paris et que ça va et qu'on continue encore plus à repousser les pauvres toujours plus loin. Donc
c'est
si l'idée
c'est pas que les pauvres, une famille moyenne, papa maman deux enfants à Paris ne peut pas vivre. Avec deux personnes qui travaillent, ne peut pas vivre.
Mais quoi qu'il en soit, ce qui va se passer, et donc je pense que la régulation de la question des loyers à Paris, c'est plutôt par ce bout de la lorgnette qu'on devrait résoudre ça, plutôt que de dire qu'on va de plus en plus, vider la ville de sa substance.
Et après, il faut savoir ce qu'ils vont faire de ces lycées également, parce qu'ils vont pas les laisser comme ça vides. Donc,
les centres sociaux.
Non, ils veulent en faire des lits justement pour des internats d'hébergement pour lycéens et étudiants.
Ah oui, d'accord. Ouais. Mais comme ils ne pourront plus étudier, c'est bizarre.
Oui, mais pour les autres.
Vous voyez ce que je veux dire. Non, je rigole.
Ils ne peuvent pas se loger.
Ouais. Évidemment. Ouais. On va passer au gâchis du jour.
En octobre, la France a dû, en toute discrétion, détruire quelques millions de doses de Moderna, le vaccin contre le Covid. C'est en tout cas ce qu'affirme le journal L'Humanité. Près de 4 millions de flacons de Moderna auraient ainsi été détruits en octobre, ce qui représente quand même une somme de 75 à 80 millions d'euros en cause. Des doses non adaptées aux variants Omicron et trop proches de leur date de péremption pour être donnée à d'autres pays qui en auraient besoin.
C'est hallucinant ça quand même, Thierry Moreau.
Oui, alors après c'est compliqué à gérer ce genre de choses. On se souvient qu'à une époque on était tombé sur Roselyne Bachelot parce qu'elle avait, elle s'était insurgée, enfin elle avait fait des stocks de masques qui sur finalement
de vaccins, 94 millions.
Oui, pardon, oui. Et puis finalement ils ont été périmés, on a été obligé de les. Moi je préfère qu'on jette des vaccins plutôt qu'on manque de vaccins. Donc ok, ça a coûté 70 millions d'euros. Il y a peut-être une mauvaise gestion, je connais pas bien le dossier. Il faudrait regarder précisément qui est responsable du fait que ça soit pas adapté au Omicron et que ça soit proche de la date de péremption.
Parce que quand tu les as fabriqués, il y avait pas d'Omicron,
Voilà. Donc je dis c'est le prix, c'est le quoi qu'il en coûte pour une gestion sanitaire saine.
Personne n'a manqué, aucun Français qui a voulu se faire vacciner n'a manqué de vaccin. Donc c'est le plus important et aussi parce que il y a des Français qui ont refusé de se faire vacciner et oui, mais ces flacons ont pas été utilisés. Donc c'est pas un gros scandale, on peut comprendre ces questions de gestion.
Mais du gâchis, mais c'est pas un scandale.
Ouais, mais peux te dire aussi peut-être que une fois que tu vois que ces doses elles vont être périmées dans 3 mois, que manifestement, il y a pas 4 millions de personnes qui vont venir en 3 mois se faire vacciner, peut-être les envoyer à des pays qui en ont besoin.
C'est ça, n'ayant pas toutes les données du problème, très clairement, on n'a pas l'expertise pour savoir si quelque chose relève du scandale ou pas.
Mais c'est pas scandaleux. Mais après, effectivement, quand tu vois toutes ces doses gâchées, encore une fois, il y a des pays qui ont un accès beaucoup moins facile.
Mais on a beaucoup donné, on a beaucoup donné. Hein. Et la France,
d'accord, mais là, tu donnes pas, tu jettes à la poubelle.
Parce que
on n'a pas
beaucoup donné.
On a pas beaucoup donné.
Mais le problème, que si on avait donné, moi, je vois très bien l'humanité faire ses grands titres. La France donne des doses périmées de Moderna à l'Afrique.
Voilà, mais après tu regardes la date de péremption de tes vaccins et tu te dis 3 mois avant on va donner, tu vois, simplement
il y a sans doute une mauvaise gestion, c'est plus du gâchis que du scandale.
C'est un peu dommage.
C'est dommage.
Il y a des gens pour qui c'est moins facile que pour nous d'aller se faire vacciner.
Clairement.
L'officialisation du jour.
Après presque 10 ans d'existence, l'opération Barkhane au Sahel est terminée, annonce officielle faite aujourd'hui par Emmanuel Macron lors d'un déplacement prévu sur la base navale de Toulon. 53 militaires français auront perdu la vie lors des combats pour tenter de démanteler les groupes djihadistes dans la région. Quelques 3000 soldats restent déployés aujourd'hui au Niger, au Tchad et au Burkina Faso.
Fred Hermel.
Le Mali avait appelé au secours la France. Et la France avait répondu à son allié de l'époque, parce qu'à l'époque, les dirigeants maliens étaient nos alliés. François Hollande avait fait son devoir de grand président, parce qu'il était un grand président au niveau international. Ça, il faut le savoir. On l'a beaucoup critiqué au niveau national. Mais au niveau international, il était un grand président. Non, mais c'est vrai. Non, au niveau international, il est très respecté. Je veux dire que, et pour en avoir parlé avec beaucoup de gens dans le monde, c'est une évidence. Il avait été applaudi, à Bamako, parce que, oui, il a empêché le Mali de tomber entre les mains sauf qu'aujourd'hui il y a une sorte de coup d'état, et qu'on s'en va et qu'on va pleurer toujours les 53 héros français qui ont donné leur vie pour protéger les Maliens.
Très clairement, je rajouterai juste une petite rectification à ce qu'a dit Rémi, c'est que tenter d'éradiquer le djihadisme, on en a quand même éliminé
à certains noms. Il faut dire des choses.
Et
les un certain nombre de militaires sous couvert français le disent eux-mêmes. C'est quand même, ça se termine quand même en un fiasco diplomatique.
Et oui, parce que la géopolitique change, parce que les Russes commencent à investir la
France
massive avec des moyens. Et les Chinois, et on est victime de cette géopolitique qui bouge. Mais on a quand même éradiqué une partie des islamistes au Mali. Faut pas, c'est pas totalement négatif. Ça coûte cher. Et on pleurera toujours les 53 militaires qui sont morts pour la France.
On va tout de suite rejoindre Vincent Moscato, le super Moscato Show, et c'est un jour particulier. Aujourd'hui, on attend la liste de Didier Deschamps, Vincent.
Oh, Didier Deschamps qui nous a balancé cette liste. Comment ça va d'abord?
Ça va bien.
Oh, j'en ai appris une belle
courbe. J'attends la liste.
Oh là, c'était un grand président à l'étranger. Par contre, intramuros, moyen quand même.
Oui, c'est...
Mais non, quand on a, c'est vrai, tous les présidents, comme ils sont nuls à la maison, on dit toujours Chirac.
Tu dis, mais il était apprécié à l'étranger.
Très bon à l'étranger.
Et on dit ça après, en général.
Mais après, bien longtemps après. Alors, on va. Oui, oh, bah, D'abord, quand même, du respect, la route de Rome est partie depuis une heure.
Ah bien sûr.
On pense à ces femmes qui saluent leur marin comme ça, un mouchoir à la main. Assis sur un petit banc en train de pleurer, tu sais ce que c'est. J'insiste pas, j'enfonce pas le poignard.
Ouais, voilà. Vous savez qu'il y a aussi des femmes sur des bateaux. Vous savez, ça... Si,
je vous assure. Ça porte malheur, c'est Jonas. Gerson.
Mais quel enfer.
Gerson, prêté à Flamingo. Est-ce que c'est un peu... Gerson, c'était un joueur de Marseille, pour ceux qui...
Merci, oui.
Rien, alors, ça ne, si ça vous dit qu'on ne sait rien, bon, ça ne vous intéresse pas non plus beaucoup.
Moi, je préfère la liste. Mais...
Oui, mais la liste, mais ce qu'on va parler. Bien entendu, alors la liste de Deschamps, il y aura une surprise. Et puis Juninho Sulfatolas. Juninho, ce joueur, l'ancien manager de l'OL, de l'Olympique de Lyon, Sulfatolas. Alors, voilà, c'est-il un ingrat? Juninho est-il un ingrat? Et puis Piqué, son dernier match, Piqué.
Quelle tristesse.
Oh, il a dégoupillé. Il a dégoupillé. Bon, c'est son dernier match, il s'en fout après tout.
C'est pour sa campagne de futur président du Barça.
Ouais. Non, mais il va être bon. Hein. Il est bon.
Sûr.
Il est dégourdi dans les affaires et tout. C'est un drôle de mec. Hein. Bon, là, il a quand même une petite pension à filer, quand même, à Rihanna, parce qu'elle est un peu à la rue.
Shakira. Rihanna, oui, c'est ouais.
Il a peut-être des infos, Vincent.
Aussi, mais là, pour l'instant, c'est Shakira.
Elle est un peu à la rue. Il veut bien lui filer 1000 balles par mois, quand même, pour qu'elle arrive à vivre. Bon, écoute, Estelle, on est parti sur le super Moscato Show.
Bah, c'est super, on va vous écouter.
Mais plein modèle. C'est comme des follows, le dard en avant. On est
pillé. C'est-à-dire,
ça va envoyer du bois.
Ça maintient en vie. Eh ben, écoutez, super.
Je vous embrasse.
Et ben, moi aussi, Vincent.
Toutes.
Voilà. Et le super Moscato Show, tout de suite. Et nous, on revient demain, Estelle, midi 15h sur RMC Story. Salut à tous.